Tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Ici Kevin Breton en remplacement de Clotilde Say. J'aurai le plaisir d'animer ce magazine les prochains vendredis des prochaines semaines. Ce sera avec grand plaisir. Aujourd'hui à l'émission, il va y avoir une chronique comme à l'habitude qui va porter cette fois sur le bégaiement. La moitié d'émission, on va s'intéresser à un événement assez spectaculaire qui va avoir lieu ce soir à Granby, alors que des personnes complètement aveugles vont prendre le volant dans une course pas comme les autres. On va aussi parler de sport, entre autres du goalball, un sport pour personnes aveugles, et également d'arts martiaux adaptés pour les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou avec autres besoins particuliers. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la prochaine heure et on s'en va dans un instant aux nouvelles de la journée. Donc, avec notre recherchiste Sylvie Rivard, on a épluché les journaux des derniers jours pour vous trouver les nouvelles les plus intéressantes à vous livrer aujourd'hui. Et bien, il y a un article qui a particulièrement retenu mon attention de la radio Vivre FM en France. Hein, c'est un peu l'équivalent de Canal M chez nos cousins français. Ils aiment beaucoup traiter de toutes les questions reliées au handicap et à l'accessibilité, n'est-ce pas? Et puis là, bien, il y a un de nos compatriotes en fauteuil roulant, Samuel Marie, qui est de passage au Québec, plus précisément à Montréal. Donc, Samuel, on le surnomme Sam Ferroulé, parce que lui, ben, il aime beaucoup voyager à travers la planète avec son fauteuil. Il était de passage à Montréal. Il a notamment rencontré la conférencière montréalaise, également fauteuil roulant, Marie-Claude Lépine. Et voici ce qu'on a dit à son sujet. C'est qu'il a rencontré, en fait, des créateurs d'un simulateur pour réapprendre le fauteuil roulant électrique. Il a rencontré de nombreuses associations, des personnes en situation de handicap, des conférenciers lors de son passage. Et lorsqu'il est arrivé aux universités de Laval à Québec et à l'Université McGill de Montréal, il a rencontré Philippe, qui est professeur en ergothérapie. C'est une discipline qui vise la rééducation par l'activité. Et le chercheur a développé ce qu'on appelle MyWi. C'est un simulateur pour apprendre à manier un fauteuil roulant électrique. Avec un joystick installé devant un écran, l'utilisateur s'entraîne à piloter un fauteuil dans différentes situations du quotidien, que ce soit pour faire ses courses au supermarché, traverser une foule en ville ou encore simplement en se rendre aux toilettes. On sait que ça peut représenter un véritable trajet du combattant. Donc, qu'est-ce qu'il en sort en fait? C'est que le but des échanges que Samuel a eu avec les différents concepteurs, c'était de développer des liens entre les différentes universités, ce qui va servir à mieux comprendre les besoins des personnes en fauteuil roulant et de faire avancer les choses, et également de trouver les budgets ensemble pour pouvoir se rendre à destination. Il n'a pas seulement que travaillé, Samuel, lors de son séjour à Montréal, il s'est également permis une petite pause aquatique après cette semaine studieuse et remplie de rendez-vous. Il est temps pour Samuel et son infirmier Max qui l'accompagne de reprendre un rythme un peu plus doux pour tenir la choc sur la durée du voyage. Donc, il s'est rendu aux chutes du Niagara. C'est un message qui a été envoyé quelques jours plus tôt à Québec, qui est à être dans une atmosphère humide. La semaine prochaine, il va se retrouver à faire du kayak en bas des chutes. C'est ce qu'on retrouve sur le site vivrefm.com. Dans un tout autre ordre d'idées, c'est un sujet qui, personnellement, m'interpelle vraiment beaucoup. C'est celui de la bioéthique. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est vraiment un secteur scientifique qui est en pleine effervescence, où on tente de corriger ou, en tout cas, de modifier des embryons humains, souvent dans l'objectif de retirer ou de prévenir ou de corriger des maladies. Dans un article de Paul Ricard qui est paru dans Le Devoir du 3 août hier, on titre « Un gène défectueux corrigé dans un embryon humain ». Des spécialistes canadiens de l'éthique clinique demandent à Ottawa de permettre de telles expériences. Tandis qu'aux États-Unis, des chercheurs viennent de corriger pour la première fois un gène défectueux dans un embryon humain. Des spécialistes canadiens de l'éthique clinique demandent à Ottawa de revoir sa loi pour permettre de telles expériences au pays. Mercredi, une étude publiée dans la revue scientifique Nature révélait que des gènes porteurs d'une maladie cardiaque héréditaire ont été modifiés dans des embryons humains avec succès grâce à une technique révolutionnaire d'édition génétique. Il y a plusieurs maladies très graves qui sont causées par une mutation dans l'ADN. Des chercheurs ont développé la technique CRISPR-Cas9 qui permet de corriger un « mauvais gène », dit entre guillemets, un peu comme si on utilisait un logiciel de traitement de texte. On coupe une série de lettres qui créeraient une faute d'orthographe et on la remplace par les bonnes lettres, d'expliquer Vardit Ravitsky, qui est éthicienne et professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. La recherche sur les embryons humains est strictement encadrée et il n'était pas question d'implanter ceux de l'étude dans l'utérus d'une femme pour entamer une grossesse. C'est pourquoi les scientifiques ne les ont pas laissés se développer plus de quelques jours. Ces travaux ouvrent potentiellement la voie à de grands projets dans le traitement des maladies génétiques, mais pas au Canada, puisque la loi sur la procréation assistée interdit la modification du génome d'une cellule d'un être humain ou d'un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants. Ça également s'est mis entre guillemets. Donc, Maître Julie Cousineau, qui est avocate et coordonnatrice du Bureau de l'éthique clinique de l'UDM, explique « Le cadre légal ne permet pas ce type d'expérience, et ce, même dans une optique médicale. Cela étant dit, on ne peut pas écarter que la loi soit revisée, et si c'est le cas, on risque de faire face à plusieurs enjeux. Si, par exemple, on le permet pour des raisons médicales, est-ce qu'on doit aussi tenir compte d'un scénario futuriste où on pourrait vouloir choisir la couleur des yeux de l'embryon? » Un groupe d'experts, dont Mme Ravitsky fait partie, demande depuis janvier dernier à Ottawa d'ouvrir le débat sur les modifications génétiques. C'est une technique extrêmement prometteuse. Si elle s'avère efficace, ce sera la médecine de l'avenir. On pourra prévenir des maladies graves. Selon nous, ce n'est pas raisonnable de bloquer ce type de recherche, indique Mme Ravitsky. Vraiment, ce n'est seulement que la moitié du dossier là, qui est disponible sur le site du Devoir, si vous voulez lire l'article au complet, ledevoir.com du 3 août. C'est vraiment un domaine dont on va entendre de plus en plus parler, je pense, celui de la bioéthique. Et maintenant, bien, on s'en va à notre première entrevue. Très heureux de rejoindre au bout du fil Monsieur Mohamed Gelafi, directeur de l'Association de développement des arts martiaux adaptés. Bonjour, Monsieur Gelafi.
Oui, bonjour.
Très heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, on va parler d'arts martiaux adaptés que vous offrez précisément pour les personnes avec des besoins particuliers, des enfants avec des besoins particuliers. Est-ce que vous pouvez tout d'abord m'expliquer, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit souvent que les arts martiaux, c'est une discipline qui est très bénéfique chez l'individu?
Ben, tout à fait. En fait, je me présente, Mohamed Gelafi, je suis président fondateur de l'Association du développement des arts martiaux adaptés, ADAMA. Tout à fait, les arts martiaux, en fait, sont réunis autour d'une valeur qui est la persévérance et le courage et l'importance de valoriser l'estime de soi, ce qui va tout à fait en synergie avec l'accessibilité universelle et l'inclusion sociale. Et la quête de chaque personne qui a des besoins particuliers.
Ouais, donc on comprend que ces bienfaits-là reliés à la pratique d'arts martiaux, ce sont des bienfaits qu'on souhaite être le plus inclusif et le plus universel possible. Et vous, chez ADAMA, vous vous êtes donné une mission particulière, c'est de faire profiter de ces bénéfices-là à des personnes qui ont des besoins spéciaux. On va pouvoir préciser c'est quoi un peu plus tard, mais est-ce que vous pouvez me dire en fait d'où c'est parti cette idée au départ de vouloir ouvrir les portes à un maximum d'élèves possible?
Ben, au départ, avant que ADAMA voit le jour en 2012, J'ai commencé à donner des cours d'arts martiaux en 2006. C'est là que j'ai rencontré un premier jeune qui avait un trouble du spectre de l'autisme. Ses parents ne voulaient pas me le dire parce qu'il s'est fait refuser de 3 dojos avant d'arriver à mon dojo. En tous les cas, à la fin de la session, ils ont vu qu'il a réalisé beaucoup de progrès, qu'il a pu finalement s'intégrer au groupe, et ils m'ont remercié, et c'est là qu'ils m'ont appris que leur jeune était autiste. À l'époque, je savais pas grand-chose sur l'autisme, et j'ai décidé de faire une réorientation professionnelle parce que j'ai une maîtrise en communication et j'ai un profil de plus en communication et journalisme, et j'ai décidé d'apprendre plus et de suivre un diplôme d'études supérieures à l'UQAM en intervention éducative auprès des élèves avec un trouble envahissant le développement.
Donc, ce petit jeune homme-là et sa famille ont vraiment été la bougie d'allumage qui ont réorienté votre carrière. Maintenant, est-ce que vous diriez que vous vous spécialisez en la matière de cours d'arts martiaux adaptés?
Tout à fait. La vérité, ça m'a beaucoup touché le fait que un jeune soit en quelque part, on va dire, discriminé parce que on choisit pas son handicap, on choisit pas de vivre avec une limitation. Ça m'a beaucoup touché parce que même dans mon pays d'origine, je suis originaire de la Tunisie. Et j'étais militant en droits humains. Je crois pleinement dans l'égalité sociale. Et je crois que tout le monde mérite sa chance dans la vie. Et à vrai dire, pas juste les personnes handicapées, mais les personnes vivant avec un handicap, ainsi que les homosexuels, les immigrants, les femmes, on se bat pour la même cause, pour l'égalité.
Oui, ah, je suis sûr que votre message va résonner dans le cœur de bien des gens. Et quand on parle de besoins particuliers, on a parlé de l'exemple du jeune qui était autiste. Est-ce que vous avez d'autres exemples de types de personnes qui peuvent s'inscrire à ces cours qui ont différents handicaps que celui de l'autisme?
Tout à fait. On a commencé avec des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme et qui représentent en ce moment les 2/3 de notre clientèle, mais on a également des personnes avec mobilité réduite, des personnes avec une limitation fonctionnelle. On travaille avec des jeunes avec une déficience intellectuelle. Vraiment, on n'a pas de limite. Notre principe, c'est l'inclusion sociale et l'accessibilité universelle pour tout le monde, peu importe leurs difficultés ou leurs défis.
Et là, monsieur, j'ai la fille on le rappelle, de l'association des sports, de l'association de développement des arts martiaux adaptés. Est-ce que vous pouvez me décrire comment ça se passe sur le tapis, concrètement, quand vous êtes dans une salle de classe avec des personnes qui ne sont pas nécessairement neurotypiques? Est-ce que c'est difficile d'aller chercher la concentration de tout le monde?
En fait, moi personnellement, on a plusieurs dojos membres. Chaque instructeur a une méthode particulière, bien que tout le monde suit les formations de Adama, qui se base sur alimenter la créativité des entraîneurs. Donc, autrement dit, nos formations, c'est pas pour apprendre les gens, donner aux gens une recette magique, parce que les jeunes avec lesquels on fait affaire, c'est du cas par cas, mais plutôt les apprendre à pêcher. Ainsi, pour répondre plus directement à votre question, personnellement, je me suis inspiré beaucoup des études académiques que j'ai faites à l'UQAM dans le cadre de mon DESS, parce que tous mes projets de recherche portaient sur le karaté adapté. Donc, j'utilise beaucoup l'approche teach quand je travaille avec des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme. Je m'inspire de cette approche, je l'ai adaptée aux réalités des arts martiaux adaptés. C'est une approche comportementale qui est très efficace, qui est reconnue par le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de, par exemple, quand on enseigne, par exemple, une prise, là, comment on le fait différemment quand on s'adresse à un jeune avec un trouble du spectre de l'autisme versus un élève qui est neurotypique, là?
Ben, le plus important, c'est chercher le contact visuel en premier. Ce qui est déjà un défi en soi. La deuxième chose, il faut que ça soit individualisé comme première étape, en fait, même avant d'apprendre la technique à un jeune autiste, il faut qu'il apprivoise et qu'il soit confiant et connaît la place dans laquelle il s'entraîne. Parfois, le premier cours, le jeune arrive et il regarde juste le cours, on le force, on ne met même pas de pression sur lui pour qu'il assiste au cours, on lui donne le temps de s'adapter. Et après ça, les techniques, on donne toujours une pause à tous les 30 minutes. Mmh. Et quand il fait la technique, c'est vraiment, on se met à son niveau. C'est-à-dire, je reste pas debout alors que les petits arrivent à mes hanches, je me mets à genoux, je cherche un contact visuel le plus que possible. Et ça dépend du jeune. S'il est tactile, je vais essayer de l'aider, de prendre sa main et de lui montrer la technique. S'il est plus visuel, je vais utiliser des pictogrammes pour l'aider. S'il est verbal, donc je vais essayer d'utiliser des phrases claires et courtes et précises.
En somme, donc, c'est d'avoir une approche individualisée avec l'élève qui est la clé du succès. Également, d'offrir des petites pauses de 30 minutes pour leur permettre, j'imagine, de décompresser, de pas trop leur mettre de pression. Je pense que c'est des bons trucs qu'on peut donner, effectivement, à des parents ou à d'autres enseignants qui veulent enseigner différents sports à des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Je vous félicite pour votre initiative, Monsieur Gélafi. D'ailleurs, elle a même fait des petits, puisque votre association récemment ouvert une association au Maroc. Encore une fois, bravo et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci infiniment pour l'invitation et ensemble pour des arts martiaux inclusifs et adaptés.
Certainement. Bonne continuation. Nous, on s'en va maintenant en musique.
Bonjour.
Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose et c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose et c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Je suis pas né à Montréal, mais j'y mourrai peut-être un jour, puisqu'il faut finir quelque part. Sur Sainte-Catherine, ce serait pas mal, non? Une mort glauque et pathétique, entourée de putes et de flics, les unes pleurant, les autres crachant. Et moi aux anges, en me disant que Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Parc La Fontaine entouré de chiens et de chiennes et de leur même tenue en laisse qui chuchoterait comme à la messe. Au milieu du chant des oiseaux qui si ce jour-là il fait beau me siffleront des chants d'amour. En tout cas c'est ce que je me dirais car Montréal n'est pas la ville rose mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Que l'on meurt à Montréal, on meurt entouré, c'est fatal de déchets de passion de glamour. Usé avant le point du jour, dans le bas-ventre de cette ville, les rues, les filles sont fertiles de la beauté, de la beauté. Et la laideur ne vient qu'après Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose, c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Et Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. De mourir d'amour. De mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose.
s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. C'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal.
Montréal de Thomas Jensen à M l'été, le magazine de Canal M. Toujours Kevin Breton au micro jusqu'à 13h. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. On va parler d'un sujet maintenant, le bégaiement chez l'enfant. S'il est normal de voir un de nos enfants en bas âge hésiter quand il parle, il est en revanche moins habituel d'observer qu'il va vraiment buter littéralement sur les mots, qu'il va cligner des yeux et répéter des syllabes, pour se démêler dans tout ça et obtenir des petits trucs. On reçoit aujourd'hui la directrice générale et orthophoniste de la clinique Proaction, Madame Agathe Tupula-Kabola. Bonjour Madame Kabola.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Oui, donc je l'ai dit en introduction, peut-être s'il y a des parents qui nous écoutent en ce moment, puis qui observent déjà des manifestations d'hésitation ou de bégaiement chez leur enfant, c'est quoi les signes qui vont nous faire distinguer qu'il y a peut-être vraiment un problème qu'on doit corriger chez l'enfant?
Oui, bien en fait, le bégaiement, ça va souvent apparaître entre l'âge de 2 et 5 ans, le plus souvent autour de 3 ans. Et puis, c'est pas toujours facile de distinguer qu'est-ce qui est une hésitation normale et qu'est-ce qui est du réel bégaiement. On parle d'hésitation normale quand l'enfant va parfois chercher ses mots ou va parfois vivre beaucoup d'émotions, par exemple, va à une fête d'anniversaire, réalise une activité qui lui plaît beaucoup. Alors là, il va parfois répéter des mots en entier. Il va avoir des pauses dans ses énoncés, mais il n'y aura pas de tension et puis les moments de difficulté vont être relativement courts. Quand on parle d'un véritable bégaiement, on va observer davantage de répétitions de parties de mots, comme ça, ou encore des blocages sur des mots. Le plus souvent, ça va être en début d'énoncé, en début de phrase, par exemple, comme ça. Et ça va être inhabituel. On peut aussi observer des prolongements de sons, comme ça, donc des allongements de voyelles. Et puis, les moments de difficulté vont durer une seconde ou plus. Donc, ça va être plus long. Et on peut observer parfois des mouvements associés au bégaiement. Donc, non seulement il va avoir des difficultés au niveau de la parole, mais on va observer que l'enfant va cligner des yeux.
Ça, c'est un symptôme. J'étais pas au courant, en fait, qu'il y avait des symptômes ou des manifestations qui n'étaient pas seulement verbales ou verbaux. Donc, le clignement des yeux, c'est autre chose là, qui peut être un symptôme associé au bégaiement.
Oui, on peut parfois même voir des hochements de tête, mouvements des bras ou même des pieds. Parfois, au moment où l'enfant va bégayer, il va taper du pied.
Okay.
Ça, c'est des choses qu'on peut voir parfois.
Puis, qu'est-ce qu'on les signes, disons, que les signes qui sont normaux dans le développement d'un enfant qui apprend à parler pour ne pas le confondre avec du bégaiement? Si c'est seulement, disons, des hésitations, là, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter.
Exactement. Je dirais qu'en tant que parent, on peut comparer à d'autres enfants du même âge, par exemple, qui vont à la même garderie ou peut-être à la fratrie, si l'enfant a des frères et sœurs. Souvent, les parents peuvent se faire confiance, ils vont être capables de distinguer qu'est-ce qui semble normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on peut voir que parfois même l'enfant va sembler dérangé par sa parole, va exprimer que c'est difficile pour lui de sortir les mots. Parfois, on peut même voir l'enfant qui va pleurer puis abandonner l'échange parce que c'est très, très difficile d'exprimer ce qu'il veut communiquer.
J'imagine que ça peut créer effectivement beaucoup de frustration, mais est-ce qu'il y a des scénarios ou des contextes où l'enfant est plus propice à bégayer, peut-être dans les situations plus nerveuses où il y a plus d'anxiété, par exemple?
Parfois, on va voir que certaines émotions comme le stress, l'anxiété ou même des émotions très positives comme une certaine excitation dans un anniversaire, par exemple, ça va augmenter le bégaiement, ça va l'aggraver. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas ces émotions qui causent le bégaiement. À la base, la cause est en grande partie héréditaire. On sait que ça touche beaucoup plus les garçons que les filles dans un ratio de 4 pour 1. Donc, pour une fille qui bégaye, il va en avoir 4 garçons environ qui vont bégayer.
Ça, je savais pas. C'est intéressant. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est un facteur génétique ou...
C'est une très bonne question. En fait, c'est pas 100% génétique parce qu'on voit chez certains jumeaux identiques, donc qui partagent le même bagage génétique, il y en a un des deux seulement qui bégaye.
Oh, ouais.
Donc, 100% de la cause n'est pas génétique. Il y a des facteurs aussi environnementaux. Toutefois, c'est important que les parents ne se culpabilisent pas parce qu'il n'y a aucune recherche qui démontre qu'il y a une attitude parentale en particulier qui serait la cause du bégaiement.
OK, d'accord. On est toujours avec Agathe Tupula-Kabola, directrice générale et orthophoniste de la clinique Proaction. On parle de bégaiement et une autre chose que je pense qui est importante de savoir, on a dit que les parents ne devraient pas se culpabiliser, mais également, je pense qu'il ne faut pas dramatiser quand on voit des manifestations de bégaiement. L'important, j'imagine, c'est d'intervenir le plus tôt possible pour corriger.
Tout à fait. Donc, souvent, on va donner le délai approximatif de 6 mois à 1 an. Si ça fait plus de 6 mois que l'enfant a des difficultés, si dans sa famille, il y a d'autres membres qui ont déjà bégayé ou qui bégayent toujours, ou si le simple fait que c'est un garçon, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent nous permettre de prédire que le bégaiement risque de persister. Mm-hmm. Donc, quand ça persiste, c'est préférable d'aller consulter en orthophonie. Et puis, pour rassurer les parents, il faut savoir qu'à l'âge préscolaire, le bégaiement est une problématique qui se traite relativement bien.
OK. Donc, plus que c'est jeune, plus que c'est diagnostiqué jeune, plus que c'est facile de corriger le problème?
Oui. En fait, on peut intervenir dès l'âge de 3 ans en orthophonie avec l'enfant, avec un programme qui est très efficace, là, qu'on appelle le programme Lidcombe, et où le parent joue un rôle qui est très important pour arriver à vaincre le bégaiement.
J'imagine que c'est tout un processus, puis que c'est extrêmement complexe et difficile à résumer en 2 minutes, mais est-ce que vous pouvez donner des idées, des exemples d'interventions de comment on fait pour corriger le bégaiement lors, oui, lors d'ateliers avec des jeunes?
Mais tout d'abord, on va montrer aux parents quelles sont les attitudes à démontrer quand notre enfant bégaye. Très important de ne pas terminer les phrases de l'enfant à sa, ouais, place. Souvent, c'est tentant.
Je suis coupable de le faire des fois.
Mais c'est très important de comprendre que l'enfant sait ce qu'il veut dire. Et c'est valable aussi pour les adultes qui bégayent comme conseil. Vraiment, laisser la personne terminer ce qu'elle veut communiquer. Garder un bon contact visuel aussi avec la personne. Parfois, on peut être embarrassé, regarder le plancher, regarder ailleurs.
C'est pas une bonne chose.
C'est pas une bonne chose, effectivement. Okay. Et puis, éviter aussi les conseils gentils comme « prends ton temps, respire », même si c'est de bonne foi qu'on les donne, ça peut être dérangeant.
Ça peut ajouter de l'anxiété, j'imagine, aussi, oui, si tout le monde est là puis donne des conseils à l'enfant. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, Agathe.
Ça fait plaisir.
C'était extrêmement éducatif. Je suis sûr que ça va aider bien des gens. Agathe Tupula-Cobola de la clinique ProAction. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la clinique, cliniqueproaction.com. Nous, on retourne maintenant en musique et on revient tout de suite après. Et nous, on sera de retour dans quelques instants pour la deuxième demi-heure de l'émission. Encore des beaux sujets. On va notamment parler d'une course pilotée par des personnes qui sont complètement aveugles. C'est à ne pas manquer. Restez là sur Canal M. Toujours Kevin Breton au micro pour M l'été, le magazine de Canal M. Ça va vite cette émission-là, on est déjà à mi-chemin et là on s'en va rencontrer dans un instant quelqu'un qui est justement à mi-chemin entre Montréal et Granby. Il se prépare à participer à une course vraiment particulière. Donc, je le disais, notre prochain invité a accepté de nous parler par téléphone. Il est en chemin entre Montréal et Granby, donc vous nous excuserez si la qualité sonore n'est pas optimale. C'est M. Serge Poulin. Tout d'abord, bonjour Serge.
Hey, salut Kevin.
Ça va bien?
Plaisir de parler à tes auditeurs et auditrices.
Nous, ça fait, on est très contents de recevoir. On sait que tu as une journée très chargée aujourd'hui puisque tu t'en vas participer au défi Vision organisé par Mira, qui est une course complètement folle. On va pouvoir en parler plus en détail. Mais tout d'abord, Serge, j'aimerais te féliciter puisqu'on a appris cette semaine que tu es le nouveau directeur général du RUTA, le regroupement des usagers du transport adapté. Félicitations.
Ben merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir pour moi de retourner travailler avec des gens avec qui j'ai œuvré pendant plus de 20 ans. Donc, le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal me permet ça. Et c'est une belle équipe. Alors, je suis très heureux de revenir dans le milieu, on va le dire comme ça.
Tu fais bien de le préciser. Donc, c'est le regroupement des usagers du transport adapté, mais également accessible. Donc, ce qu'on en comprend, c'est que vous œuvrez en défense des droits à la fois pour les usagers qui utilisent le transport adapté, mais aussi qui utilisent le métro ou l'autobus régulier. Et votre objectif au RUTA, c'est quoi? C'est de rendre les déplacements les plus faciles pour les personnes handicapées?
Bien, évidemment, c'est de s'assurer que, la démarche d'accessibilité universelle, on sait que c'est pas vite, on est tous conscients de ça, on voudrait que ça soit fait demain, puis nous aussi, on pousse là-dessus, mais on travaille à trouver des solutions ensemble pour que les transports soient à la fois, comme tu dis, faciles, mais surtout sécuritaires et accessibles. C'est ça le principe. C'est que la personne puisse avoir le libre choix, au fond, de se rendre où elle veut par les moyens qu'elle le souhaite.
Puis qu'est-ce que, pour dans votre mandat, Serge, qu'est-ce que vous entrevoyez dans les prochaines années comme principaux défis pour le transport adapté et accessible à Montréal?
Bien, évidemment, il y a toute la contrainte des mesures au transport adapté parce qu'il y a eu des coupures de budget, ça fait qu'on travaille là-dessus. Mais je dirais que les grands défis, c'est l'accessibilité du métro, on le sait. Tout aussi, dans la planification stratégique du regroupement, il y a toute une version aussi de tout ce qui est urbain, donc le mobilier urbain, l'aménagement des lieux. Quand on arrive à des lieux de transport, s'il y a un banc avant de l'arrêt, je regrette, là, mais en tout cas, là, c'est un des exemples que je pourrais donner parmi tant d'autres. Et on veut continuer aussi à travailler, évidemment, sur l'aspect du métro. On le sait qu'il y a beaucoup à faire. Et il y a tout aussi la nouvelle structure de l'autorité régionale de transport, le réseau de transport de Montréal, qui est toute une nouvelle autorité avec laquelle on va devoir travailler, que ça va être plaisant. Donc, beaucoup de défis en plus de l'application, de la planification stratégique de l'organisme et surtout d'aller se chercher des membres. Je pense que le RUTA est là pour ses membres, c'est à ses membres de s'exprimer, il y a participé. Puis plus on va avoir de membres, plus on va faire des belles représentations qui vont donner des résultats, on l'espère bien.
On a eu déjà quand même de bonnes nouvelles en ce qui concerne l'installation progressive d'ascenseurs dans de nouvelles stations un peu partout dans les métros de Montréal. Là, si je me souviens bien, d'ici 2022, c'est 25 stations qui seront accessibles aux usagers en fauteuil roulant. On entend un petit peu moins parler des usagers avec une perte de vision qui sont aveugles, comme vous-même, Monsieur Poulain. Est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines années une plus grande place à la technologie pour aider ces usagers-là à se déplacer dans le métro? On peut penser à une espèce de GPS dans son téléphone qui nous indique où sont les sorties, par exemple.
Bien, en tout cas, c'est des choses à envisager. Effectivement, la technique, comme tu le dis, Kevin, s'en vient le plus développé à ce niveau-là. Ça, c'est une chose que je sais moins à quel point on en est rendu dans le métro, mais effectivement, ça pourrait être une parmi plusieurs autres solutions. Là, je te dirais qu'actuellement, ce qu'on surveille très attentivement dans le milieu des personnes qui ont une limitation visuelle, c'est l'arrivée des nouveaux autobus électriques.
Oui, parce qu'effectivement, ils peuvent créer un certain problème dans le sens où ces autobus-là sont très silencieux. Bon, pour certains, c'est un avantage, mais pour d'autres, où l'ouïe est particulièrement important, ça peut être un danger.
Ben effectivement, je veux dire, si tu entends l'autobus qui est à un mètre de toi, tu n'as pas beaucoup de temps de réaction. On a tous ces tests-là à faire, ces démarches-là avec la SPM. C'est pas qu'on est contre les autobus électriques, bien au contraire, mais comme tu l'as bien mentionné, c'est toute la sonore de la chose. Est-ce que j'entends arriver l'autobus? Est-ce que je suis capable de le suivre lorsqu'il démarre pour effectuer une belle traversée sécuritaire? Bon, il y a toutes sortes d'aspects comme ça qu'il faut considérer, là.
Oui, tout à fait. C'est dommage que dans les grands débats où à chaque fois qu'on discute d'électrification des transports, on mette de côté souvent cet aspect-là qui en est un aspect effectivement très important. Puis on est heureux de voir que le RUTA va porter ce dossier-là. On passe des autobus à une automobile de course, Serge Poulain.
Et on demeure dans le domaine des transports.
Tout à fait. Parce que là, expliquez-moi ce que vous allez faire ce soir à Granby.
Alors, comme tu l'as mentionné, Kevin, c'est la Fondation Mira, qui est une fondation autonome, elle n'a pas de subvention de nulle part. Donc, une de ses façons d'aller chercher des fonds pour justement permettre de dresser des chiens guides pour les personnes aveugles, des personnes qui ont des limitations motrices aussi, des chiens d'assistance et des chiens pour enfants autistes. Donc, et une de leurs façons de se financer, c'est de faire une course. Et imagine-toi que c'est 32 personnes aveugles qui conduisent des véhicules. 32, là, on parle pas de 2, là. Moi, j'ai conduit quand j'étais petit, mais il y avait juste moi qui voyais pas, puis quelqu'un me disait, mais quand t'en as 32, là, c'est une autre affaire. Alors, à l'autodrome de Granby, ce soir, il va y avoir 32 personnes aveugles conduisent des véhicules, on a déjà été jusqu'à 35 même, qui conduisent des véhicules et ils sont assistés d'un copilote qui leur indique le trajet, c'est un trajet de 10 tours ou d'une demi-heure. Et bon, le principe, c'est d'essayer de ne pas démolir les autres. Hein, c'est pas une course. En même temps, évidemment, il faut être civilisé, il ne faut pas blesser des gens non plus. Mais le but, c'est évidemment, ça donne tout un spectacle. Imagine-toi le 32 qui partent sur la ligne de départ. Là. Je peux te dire que ça fait un beau ciné-parc en partant. Moi, tu fais 7 ans que j'y vais, là. C'est assez. Mais c'est spectaculaire. Moi, j'ai vu des gens qui ont dû offrir. Des vrais amateurs de course là, qui ont dit on va regarder, là, mais je pense qu'on va aller prendre une bière pendant que ça joue, c'est pas le fun. Puis il y a des gens qui nous ont dit à quelle date c'est l'année prochaine, c'est la course la plus imprévisible qu'on a jamais vue de notre vie.
Ah, j'en suis certain.
C'est vraiment plaisant.
Est-ce que vous pouvez me dire, Serge, ce sera qui votre copilote pour la course ce soir?
Mon copilote, c'est un chef de service, mais c'est plus un ami de la STM qui s'appelle Gérald de Brûlé, qui est en fauteuil roulant d'ailleurs.
Ah ouais, mon Dieu, fait que là, allez, on va mettre à contribution et ton agilité et votre agilité, Serge. J'ai de la misère à te vouvoyer parce qu'on se connaît trop bien, donc je vais arrêter, je vais te tutoyer à partir de maintenant.
C'est bien correct, j'ai pas de problème avec ça.
Ton agilité les yeux de ton copilote, est-ce que tu as des attentes ou des craintes pour ce soir? Est-ce que tu veux terminer sur le podium?
Ben, c'est sûr qu'on aimerait toujours ça, mais moi, je dis, on fait ça. Le gagnant, c'est Mira. Hein? On le fait pour Mira. Mm-hmm. On s'entend, comme l'année dernière, j'ai fini premier. J'ai trouvé ça agréable.
Ah.
Mais le but pour moi, et j'espère pour les 31 autres pilotes, c'est on est là pour Mira. C'est Mira qui doit être le gagnant là-dedans. Et on veut que les gens donnent des sous qui participent à cette cause-là. C'est sûr que c'est amusant, ça serait plaisant. Mais je t'avoue que partir 28e aujourd'hui, ça va être dur un peu. Mais moi, je fais, comme je te disais tantôt, des courses civilisées. Moi, s'il y a un véhicule qui nous coupe, par exemple, moi, je vais freiner. Je suis pas. Nous, on fait pas de courses comme ça. Ça fait 7 ans. On le fait Vérald et moi. Et notre but, c'est de s'amuser et d'amuser les autres et de surtout de collecter des fonds pour Mira. Puis en même temps, on rencontre de beaux artistes. Il y aura ce soir Vincent Cix qui sera là, il y aura Michel Richard.
Myriam Côté également.
Oui, Valérie Carpentier. Donc, il va y avoir plein de monde. Et moi, ce que je dis, c'est ma très mince contribution à cette cause-là, mais je trouve l'idée originale qu'on nous permette à des personnes non-voyantes de se retrouver sur la sellette, c'est le cas de le dire, de s'amuser, mais en même temps de financer une bonne cause.
Oui, parce que tu l'as bien dit en introduction, Mira, c'est un organisme qui est essentiel, vraiment. Là, on peut penser à tout le travail que l'organisme fait pour les personnes aveugles avec les chiens guides, mais également pour les personnes en fauteuil roulant qui peuvent profiter de chiens d'assistance, ou encore la nouvelle clientèle, comme on l'appelle, les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, qui peuvent également bénéficier des chiens qui sont entraînés par la Fondation Mira. Donc, une bonne manière de les encourager et d'encourager Serge, c'est de se rendre ce soir, le 4 août, à l'autodrome de Granby pour assister à cette course de 10 tours qui promet d'être vraiment absolument spectaculaire. Encore une fois, je te souhaite une première place ce soir, Serge, pour la course de ce soir, et je te souhaite aussi beaucoup de succès dans tes nouvelles fonctions au sein du RUTA.
Ben, c'est très gentil à toi, puis c'est sûr qu'on souhaite que les gens vont venir nous voir nombreux ce soir.
Ben, avec grand plaisir, et c'est certain qu'on va vous tenir au courant des différentes retombées de cette course de Défi Vision Mira qui va avoir lieu. Je pourrais peut-être vous emmener la semaine prochaine les résultats de cette course. On va savoir si Serge et son copilote ont bien fait ça. Et nous, on s'en va maintenant en musique, et on va revenir après la pause. On va discuter d'un autre sport pratiqué par des personnes aveugles, le goalball.
Je ne veux rien, vous pouvez y goûter. Je ne veux rien, venez vous abreuver. Je ne veux rien, vous pouvez écouter. Je ne veux rien, venez vous enivrer. Même si c'est de la limonade, elle pourrait vous saouler. Cette sérénade est trop sûre et trop sucrée. Je ne veux rien, vous pouvez tout goûter. curiosité. Je ne veux rien, venez tout dérober. Je fais des toiles et voilà, je voulais des voiles, des sculptures en argile. Affamé, je ne suis rien si je ne peux vous combler. Je ne veux rien, vous pouvez tout jeter. Ça ne fait rien, je vais recommencer.
C'était la pièce, donc, Limonade de Guillaume Arsenault, qui est tirée de son album De l'autre côté des montagnes. On termine cette émission en rejoignant Nathalie Chartrand, de la directrice générale de l'Association des sports pour aveugles. Bonjour, Madame Chartrand.
Bonjour, bonjour.
On vient tout juste de parler, je ne sais pas si vous écoutiez avant l'intermède musical, mais on parlait avec Serge Poulin de la course du défi Vision Miracle qui va avoir lieu ce soir à Granby. Je me suis posé la question, est-ce que Nathalie Chartrand, la paralympienne, a déjà participé à un événement de ce genre?
En 88.
En 88? Est-ce que vous rappeliez votre résultat à ce moment-là? Est-ce que vous aviez fini sur le podium?
Pas en tout.
Non. Est-ce que vous aviez réussi à finir la course au moins?
Honnêtement, je me souviens pas. Je sais que j'étais partie en pole position.
Ah.
Et là, mon guide m'a amené, mon copilote, il me dit « Tourne à gauche, tourne à gauche. » Mais moi, j'étais habituée de conduire. Fait que là, j'ai tourné à gauche, mais comme en angle droit, je suis rentrée dans le pneu. En tout cas, là, le moteur a étouffé. Le temps que je reparte la bagnole, non, ben c'est ça. Fait que...
Bref, vous êtes une meilleure joueuse de goalball que pilote.
Ben, c'est parce qu'honnêtement, moi, j'ai déjà conduit, hein. Puis il y en a plein là-dedans qui n'avaient jamais conduit, là. Fait que c'est dur de... C'est dur d'anticiper des mouvements, certains mouvements que d'autres...
Je le devine.
J'ai fait une fois, là, mais je me suis dit que non, c'était... Il y avait d'autres choses dans la vie, là.
Assez d'émotions fortes.
Oui.
Super. Ben, aujourd'hui, on ne vous rejoint pas pour parler de ça, Nathalie, mais plutôt pour parler d'un événement qui va avoir lieu en fin de semaine, le 6 août à Québec, le goalball auton. Avant de parler de l'événement en particulier, pour les gens qui ne connaissent pas cette discipline-là, vous la connaissez très bien, vous pouvez sûrement mieux la résumer que moi.
Oui, mais en fait, le ballon de goalball a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un moyen de réhabilitation pour apprendre aux personnes qui venaient de perdre la vue à discriminer les sons. Est-ce que le son vient de la gauche? Est-ce qu'il vient de la droite? Est-ce qu'il s'en vient rapidement? Est-ce qu'il s'en vient lentement? Est-ce qu'il y a une courbe dedans? Puis ça se passait beaucoup en Angleterre et ils habitaient comme dans un centre de réadaptation à l'époque. Fait que puis par les soirs, les fins de semaine. Ceux qui étaient dans les centres se sont mis à jouer avec le ballon puis à faire comme un sport. Fait que ce qui est fantastique avec le goalball, en fait, c'est c'est un des seuls sports qui a été inventé pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Mm-hmm. Tu sais, on parle de vélo tandem, de ski alpin, de ski de fond, tout est adapté.
Ouais. Là, c'est pas une version. C'est pas une version adaptée d'un sport qu'on connaît. C'est un sport qui a été créé à la base.
Oui. Fait qu'en fait, le ballon a des grelots, fait que c'est à l'aide de l'ouïe qu'on repère le ballon. Pour savoir où on est sur le terrain, parce que le terrain, c'est les mêmes dimensions qu'un terrain de volleyball, donc 9 mètres de large par 18 mètres de long. Mm-hmm. Donc, le but a 9 mètres. Et on est trois sur le terrain, un joueur de centre et deux ailiers. Et pour savoir où on est sur le terrain, on appose par terre
du ruban
adhésif tactile, mm-hmm. et sous le ruban, on met une petite corde. Fait qu'avec les pieds, avec les mains, on sait exactement où on est sur le terrain. Mm-hmm. Et comme au volleyball, c'est le ballon qui se promène d'une équipe à l'autre. Mm-hmm. Et le ballon se promène, en fait, on le lance le plus fort qu'on peut en le roulant par terre, un peu comme un lancer au bowling.
Ouais, ouais. Est-ce que c'est très lourd, ce ballon-là?
Il pèse 3 livres et quelques, pas loin de 4 livres.
Puis les lignes qui sont tracées au sol avec le ruban adhésif, elles sont pas suffisamment hautes pour faire dévier le ballon, par exemple.
Non, il faut pas.
Une chance, oui.
La petite corde en tour, elle peut pas avoir plus que 5 mm là, d'épaisseur. Non, parce que le but, on veut pas que le ballon change de trajectoire. Fait que c'est ça, le ballon, on le lance. Pour l'arrêter, on se couche par terre, les bras au-dessus de la tête en protégeant notre visage. Et en ayant les trois joueurs comme ça, couchés par terre, on finit par couvrir pas tout à fait le 9 mètres, à moins d'avoir trois gars de presque 7 pieds. Là. Mais on finit par couvrir pas mal le terrain, puis de toute manière, quand les gens nous voient jouer, ils disent toujours ça a l'air facile. Et c'est pour ça qu'on fait participer les voyants. Et pour une fois, c'est l'intégration à l'envers. En fait, c'est les voyants qui viennent dans notre monde, parce que le premier règlement au goalball, c'est que tout le monde doit porter un bandeau.
Incluant les personnes aveugles.
Oui, parce que il y a des non-voyants, il y a des malvoyants, mm-hmm. et les voyants peuvent jouer, pas aux Paralympiques, évidemment.
Oui, mais ça permet d'être à armes égales, c'est ça.
Oui.
Puis là,
oui.
C'est un peu la nature ou l'objectif de l'événement qui a lieu à Québec, le CISU, le goalball auton. Vous l'avez très bien dit, c'est un événement d'inclusion à l'envers. Les voyants vont avoir un bandeau, vont affronter des non-voyants, mais j'imagine que les voyants
c'est les voyants contre les voyants.
OK.
Non. Nous, on sait pas. Tu sais, quand les gens nous disent « Ah, ben ça a l'air facile parce que le ballon s'en va à droite, tout le monde se couche vers la droite, le ballon s'en va à gauche, tout le monde... » Tu sais, quand ils nous regardent, mais ça, c'est parce qu'on a des heures et des heures d'entraînement en arrière de la cravate, là.
Ben, j'allais le dire parce que je me disais, si... Moi, j'imaginais que c'était des voyants versus les non-voyants, puis je prédisais une raclée aux voyants en me disant « Ils sont pas habitués du tout, ça sera pas le fun. »
Non, ben, c'est ça. On essaie de les faire jouer à armes égales, donc ce sont tous des voyants. Qui sont pas habitués d'avoir les yeux bandés et d'écouter et de se déplacer un petit minimum et de se replacer, parce que c'est bien beau de faire un ou deux pas d'élan pour faire ton lancer, mais là, il faut que tu retrouves ta place, là.
Ouais. Oh, on devine.
Les yeux bandés, parce que t'as pas le droit jamais de toucher à ton bandeau, là.
Ouais. J'aimerais vraiment pratiquer ce sport-là un jour. J'en ai jamais eu la chance, mais en tant que voyant, si j'étais à Québec en fin de semaine, c'est dans les locaux d'Adaptavie, là, c'est sur le boulevard Wilfrid Hamel, si jamais on veut y participer. Franchement, c'est vraiment une belle initiative, et en plus, elle va servir à financer les athlètes québécois, en plus de faire connaître le goalball. Peut-être que vous pouvez me parler, Nathalie Chartrand, de l'état du goalball au Québec. Là, on sort d'une année paralympique. On en est où dans le développement du sport dans la province?
Pas à mon goût, évidemment. Du côté féminin, on a beaucoup de la misère avec le recrutement. C'est un sport, c'est sûr que le contact avec le sol, le contact avec le ballon, quand c'est la première fois qu'on joue, on peut rester comme un peu saisi quand le ballon nous touche, mais on est bien équipé, là, tu sais, des protège-hanches, des genoux, des coudes, le support athlétique pour les hommes, les protège-seins pour les femmes, mais tu sais, il faut pas avoir peur, là. Je veux dire, moi, j'ai joué au basketball quand je voyais, là, puis les cheerleaders, puis les coups de coude, puis les claques d'en face qu'on avait, ça, je trouvais ça violent. Au goalball, tu le sais que tu glisses par terre et tu sais que tu vas arrêter le ballon avec ton corps.
Ouais.
Fait que tu sais, ça peut surprendre des fois au début quand tu n'es pas habitué de bien écouter où le ballon se dirige, mais par la suite, tu le sais, tu contractes tes abdos, fait que ça te fait pas mal dans le ventre. Tu essaies de te placer pour le recevoir à une certaine place sur ton corps pour que ça te fasse moins mal. Mais ça, évidemment, c'est après plusieurs tentatives. Il faut c'est comme jouer du piano, c'est comme...
Oui, on peut pas commencer demain matin puis espérer être excellent, là.
Être excellent puis que ça fasse pas mal, tu sais. Uh-huh. Fait que c'est ça, mais du côté féminin, on aimerait bien réavoir une équipe complète. Une équipe est composée de 6 joueurs maximum. Il y en a 3 à la fois qui jouent. Et du côté masculin, présentement, on en a 5, mais ça, c'est plus qu'on en a, mieux que c'est. À Montréal, on a commencé le mini goalball. Fait qu'on a des plus petits ballons pour les jeunes là, de 10 à 13 ans.
Est-ce que le terrain est plus petit aussi ou
Non, on le fait pas, on le met pas plus petit. On pourrait le mettre plus petit, mais en fait, ça fait juste les aider dans leurs déplacements. Mm-hmm. Et puis, tu sais, en pratiquant ce sport-là, ce qui est agréable ou un plus pour une personne non-voyante, surtout complètement, c'est que ça t'aide ensuite dans ta vie de tous les jours. Quand ouais. moi, je traverse la rue, ben discriminer les sons, là, je l'ai fait des mm-hmm. heures et des heures au goalball, fait que discriminer les autos, ils s'en viennent vite, ils s'en viennent lentes, être sur le point d'arrêter, c'est moins épeurant.
Donc, ça aide à développer ou à percevoir auditivement la vitesse à laquelle, par exemple, un auto peut arriver, effectivement.
Un auto, un vélo, des gens qui passent sur le trottoir, chercher l'escalateur dans le métro,
wow.
ou peu importe.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, au départ, le ballon, c'était... sa mission première, c'était pour aider les personnes avec un handicap visuel à
ouais.
se réadapter.
Donc, ça n'a pas perdu sa vocation
non,
première.
Non. Au contraire, tu sais.
Bref, si les gens veulent essayer et développer toutes ces habiletés-là, ben ils auront la chance de le faire, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est encore moment de s'inscrire pour le goaloton en fin de semaine.
Le goalballoton, oui. Oui. Vous pouvez toujours écrire à N comme Nathalie Chartrand,
uh-huh.
à commercial sport avec un S aveugle avec un S .qc.ca.
Super.
Et on prendra. Ou sinon, ils peuvent me laisser un message pour me dire qu'ils veulent venir essayer plus tard, en début septembre, quand les entraînements vont recommencer.
À une autre occasion, on mettra votre adresse courriel sur notre site Internet si jamais les gens veulent la retrouver hein, sur vusezvoix.com. On rappelle que le goalballoton a lieu cette fin de semaine dans les locaux d'Adaptavie à Québec. C'est à l'Institut de réadaptation en déficience physique. C'est sur le boulevard Wilfrid Hamel. On remercie Nathalie Chartrand, directrice générale paralympienne, médaillée d'or en goalball. On vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de succès en fin de semaine, Nathalie.
Bien, je vous remercie infiniment.
C'était un grand plaisir. Et puis nous, bien, il nous reste encore quelques petites nouvelles en rafale que je vais vous lire dans un instant. Bien, j'aurai pas le temps de vous lire énormément de nouvelles, mais je vais au moins vous mentionner un article qu'on peut retrouver sur le site tvasport.ca. C'est au sujet d'un joueur de hockey, Brian Bickle, qui a pris sa retraite récemment. Il était atteint de sclérose en plaques, connu pour ses performances héroïques dans l'uniforme des Blackhawks de Chicago lors de leur conquête de la Coupe Stanley en 2013. L'attaquant atteint de sclérose en plaques a donc pris sa retraite à la fin de la dernière saison et il a écrit vraiment un article très, très touchant publié publiée sur le site anglais de Players Tribune, dont l'équivalent anglophone est traduit sur tvasport.ca. Dans cette tribune, l'Ontarien de 31 ans a raconté son périple dans la LNH puis le choc de son diagnostic. Puis également faire un touchant regard sur la beauté de son avenir. D'ailleurs, il faut dire qu'il a peut-être été le retour de l'année dans la Ligue nationale de hockey, alors que même après avoir reçu son diagnostic, d'avoir été tenu à l'écart du jeu pendant de nombreux mois, il est revenu dans l'uniforme des Hurricanes de la Caroline et il a marqué en fait en tir de barrage lors de son tout dernier lancé dans la LNH. Donc pour les gens qui s'intéressent, ça vaut vraiment la peine d'aller lire cette tribune que je rappelle qui a été traduite en français pour les gens qui veulent le lire sur tvasport.ca. Au sujet de cet attaquant de la LNH, Brian Bickle, qui après avoir gagné la Coupe Stanley, a dû traverser une autre épreuve, celle de la sclérose en plaques, avant de revenir plus fort. Un texte vraiment touchant. C'est ce qui conclut l'émission aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je remercie tous les invités à qui on a parlé aujourd'hui. Je remercie également Sylvie à la recherche, Obo Web, également Maurice à la mise en onde d'avoir été là aujourd'hui. Je vous remercie, vous, de m'avoir écouté. Clotilde sera de retour lundi. Puis moi, ben, je vais revenir en studio vendredi la semaine prochaine. J'ai déjà très hâte. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt.